Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à Mélomanie, merci d'être fidèle à l'écoute de cette émission. Aujourd'hui, nous allons encore vous proposer un numéro au programme très varié, à l'image de l'actualité musicale de ce mois de mars, toujours aussi chargé, alors que le printemps est arrivé, même si ça ne se voit guère pour l'instant, il faut bien le dire. Heureusement, la musique est là pour réchauffer les cœurs et les âmes. Nous allons nous employer à vous transmettre le bonheur qu'elle procure durant ce nouvel opus de Mélomanie. Pour m'y aider, j'ai le plaisir de recevoir Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et d'accueillir l'invité d'honneur de ce numéro, le guitariste Gilbert Clamins, qui est venu nous parler du concert qu'il donne avec la soprano Magali Léger, vendredi 30 mars à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Nous allons l'évoquer longuement en sa compagnie lors de la seconde partie de ce numéro. Bienvenue à vous deux et merci d'être à mes côtés dans le studio de Radio Présence. Nous allons sans plus attendre nous intéresser au concert de la semaine passée lors de la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Je l'avais annoncé lors du dernier numéro de Mélomanie, nous allons revenir sur le concert donné par l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. C'était le 14 mars à la Halle aux Grains pour la saison des grands interprètes. Et on se retrouve avec beaucoup de choses à dire sur cette soirée. Elle avait été intitulée « Le dernier voyage du compagnon Mozart » avec au programme « Le Requiem » et des œuvres dites maçonniques. Serge Chauzy, vous avez eu la chance d'y assister dans une Halle aux Grains qui était comble, je crois, ou à peu près. On sait que Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion sont très appréciés en France en général, à Toulouse en particulier. Ils sont régulièrement invités aux grands interprètes depuis des années. Quelles impressions voulez-vous nous faire partager après ce concert du 14 mars ?
Eh bien, en dépit de la célébrité du Requiem, c'était une découverte. Une découverte d'abord par la manière dont ce concert était organisé, était pensé, réfléchi, avec une intelligence et une sensibilité stupéfiante. Je dois dire que c'est un des plus beaux concerts auxquels j'ai assisté depuis le début de la saison. Effectivement, Raphaël Pichon avait décidé de conclure son concert par le Requiem, la dernière œuvre que Mozart n'a pas pu achever d'ailleurs, mais il a construit un itinéraire pour en arriver au Requiem. Un itinéraire confondant de finesse et de subtilité. Ainsi, il commence par un graduel grégorien, par une voix solo, qui chante le Christus Factus Est, un traditionnel du chant grégorien, qui date du Moyen-Âge, donc, comme pour matérialiser une espèce de point origine de la musique. Et puis ensuite, il y a eu une succession de pièces, pas seulement de Mozart d'ailleurs, qui ont construit ce chemin vers le Requiem. Alors la deuxième pièce en particulier était le fameux Miserere de Gregorio Allegri. Alors pourquoi mettre du Allegri au milieu d'un concert consacré à Mozart ? Bien tout simplement parce qu'il y a un lien entre les deux. Mozart, lorsqu'il a visité Rome avec son père, est allé à la chapelle Sixtine, dans laquelle on jouait ce Miserere, et il paraît, l'histoire raconte, qu'on fouillait les gens à l'entrée de la chapelle pour s'assurer qu'il n'avait pas de quoi écrire pour ne pas recopier ce fameux Miserere qui est une merveille, qui est une très belle œuvre et dont Mozart avait été fouillé comme les autres, il était tout jeune. Et lorsqu'ils sont sortis et qu'ils sont revenus dans leur habitation à Rome, eh bien il a pris sa plume et il a recopié ce qu'il avait retenu en l'écoutant une seule fois. Il est revenu deux jours après et il a complété son document. Et donc, il y a vraiment un lien entre Mozart et Allegri et c'était une excellente idée que de le programmer dans ce concert. Ensuite, il y a eu effectivement deux œuvres maçonniques, pas toutes de la fin de la vie d'ailleurs de Mozart, des œuvres à la fois solennelles et touchantes, intéressantes. Et puis, entre ces œuvres-là, apparaît Joseph Haydn, une œuvre de Joseph Haydn qui était un Insanae et Vanae Curae, exactement, je ne garantis pas ma prononciation du latin. Bon, une œuvre à la fois héroïque et vigoureuse, qui a été magnifiquement jouée, évidemment, comme tout le reste. Et puis enfin, le Requiem. Alors, il faut quand même dire la qualité de cet ensemble instrumental et ensemble vocal. C'était vraiment parfait. Il y a une espèce d'homogénéité dans les sonorités des instruments, mais avec une spécificité de chaque pupitre. Ainsi, c'est pas trois trombones, c'est trois sacs-boutes. C'est une flûte en bois. Ce sont des instruments anciens, évidemment, ou montés à l'ancienne, avec des phrasés bien choisis, toujours très, très raffinés, très bien faits. Non, c'était vraiment magnifique. Alors, Le Requiem, bon, on connaît, évidemment. C'était vraiment l'œuvre la plus connue de tout le programme. Mais il l'a donné dans une version particulière, puisqu'on sait que Mozart ne l'a pas achevé, puisqu'il est hélas mort avant. Et que la version la plus souvent donnée, c'est la version qui a été complétée par son élève, Süssmayr, Xaver Süssmayr. Mais de l'avis de tout le monde, elle n'est pas parfaite, évidemment, cette version. Mais qu'aurait-elle été si Mozart avait eu le temps de terminer ? Et donc, Raphaël Pichon a eu l'idée de s'adresser à un tout jeune compositeur d'aujourd'hui, qui s'appelle Pierre-Henri Dutronc, et qui a tout repris, en se basant sur les documents écrits laissés par Mozart. Donc il n'a pas fait ça simplement au pif, je dirais, pour être un peu vulgaire. Donc non, il a fait ça avec beaucoup de minutie, et effectivement ça marche parfaitement. Ainsi, s'il y a un détail dans le Tuba Mirum qui s'ouvre sur un solo de trombone ici, de sacobout, et qui est chanté par la basse, eh bien, Süssmayr a prolongé le solo de trombone, alors que Mozart n'avait écrit que le début, et il souhaitait qu'il n'y ait que le début. Eh bien donc, Pierre-Henri Dutronc a rétabli la version originale de Mozart, et etc., jusqu'à la fin. Et donc, c'est vraiment une œuvre qui apparaît comme un peu renouvelée, mais très bien faite. Et donc, on a eu cette succession des épisodes de ce Requiem magnifique, et puis avec un excellent quatuor de solistes, évidemment, avec Sabine Devieille comme soprano. Bon, Sabine Devieille, on connaît, c'est la compagne d'ailleurs de Raphaël Pichon.
Qui était attendue parce qu'elle a eu deux récompenses aux dernières victoires de la musique classique.
Voilà.
Donc évidemment, elle était très attendue, mais c'était une soliste parmi d'autres.
Exactement.
Pas du tout en vedette.
Hein. Ah non, pas du tout en vedette. D'ailleurs, dans le Requiem, c'est pas elle qui a le rôle le plus important, ce serait plutôt la basse.
Et oui.
Puisque c'est le seul des quatre solistes qui a un air qui lui est consacré. Donc Sabine Devieille avec son timbre magnifique. Un timbre de miel, c'est très beau.
Vrai.
Et puis Sarah Mingardo qui était la contralto avec un timbre d'une douceur, d'une rondeur, un timbre de velours magnifique. Il y avait un jeune ténor qui s'appelle John Irvine qui est vraiment une découverte. Hein. C'est à la fois un timbre très percutant mais qui sait s'adoucir et qui projette très bien sa voix sur tous les registres. C'était vraiment très très beau. Et puis la basse qui est Nahuel Di Piero qui est une basse qui vient de Buenos Aires, donc argentin. Et qui vraiment a impressionné par la noirceur de sa voix, ce qui convient très bien au Tuba Mirum, évidemment. Donc, quatre solistes, un chœur parfait, avec une dynamique impressionnante, et donc un itinéraire, on l'appelle effectivement le dernier voyage du compagnon Mozart, mais c'est vraiment un itinéraire vers la mort, évidemment, hein, avec des moments d'une sensibilité, d'une émotion extraordinaire, en particulier c'est le cas du Lacrimé. Alors là, c'était vraiment à pleurer au sens propre, puisque la Crimée sont les larmes, évidemment.
En tout cas, un concert, une soirée qui feront date.
Ah oui, tout à fait.
Je propose qu'on écoute un peu l'ensemble Pygmalion. Alors, je n'ai pas d'extrait du Requiem par eux-mêmes. En revanche, ils ont fait beaucoup d'enregistrements avec Sabine Devielle, entre autres d'air de Mozart. En voici un, Schon Lacht der Olde Frühling, interprété par Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon. Thank you. Schönlacht der Olde Frühling, air de Mozart, interprété par Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Ils étaient donc en concert le 14 mars à Toulouse pour la saison des grands interprètes. Il y a eu un autre concert des grands interprètes lundi dernier, mais nous allons y venir dans quelques minutes, puisqu'entre temps, il y a eu aussi un concert donné par la maîtrise de Toulouse, dirigé par Marc Hopstadt. C'était samedi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Serge, vous y étiez et vous teniez à nous en parler.
Ah oui, absolument, parce que cet ensemble vocal qui a été créé en 2006 au sein du Conservatoire de Toulouse, le Conservatoire à rayonnement régional, c'est d'abord devenu la première structure maîtrisienne du Sud-Ouest, hein, la première. Et puis, c'est une excellence absolue. Alors, j'ai l'air de ne faire que de tresser des lauriers aujourd'hui, mais c'est la vérité. C'est une maîtrise fabuleuse qui a déjà à son actif quelques albums CD qui ont été récompensés, qui ont été loués par toute la critique, pas seulement locale, je précise. Et donc, c'est vraiment un ensemble magnifique, constitué d'une cinquantaine de chanteurs, des enfants, mais également des adolescents, des jeunes adultes, hein, qui complètent et qui vraiment aborde absolument tous les répertoires, pas simplement les répertoires de musique ancienne. Et donc, ce soir-là, Marc Hopstadt, qui est vraiment un chef de chœur formidable et qui motive ses enfants de manière formidable, avait imaginé lui aussi un itinéraire, mais autour du soleil et des étoiles. Donc, il y avait une idée, un fil rouge qui guidait tout au long de ce programme, qui comprenait aussi bien des œuvres très anciennes. Donc, ça commence et ça finit par deux œuvres de la Renaissance, et l'une de William Byrd, l'autre de Thomas Tallis. Et entre les deux, eh bien, on voyage dans le temps, puisqu'il y avait à la fois des œuvres très contemporaines, certaines très difficiles. Alors, je suis admiratif de la perfection avec laquelle ces jeunes enfants, mais c'est pas 8-10 ans, pouvaient s'adapter avec autant de précision rythmique et de justesse à des œuvres aussi difficiles que, par exemple, l'œuvre qui s'appelle Soleil ou l'œuvre Une à une, Les étoiles, de Patrick Burgan, qui est un compositeur que l'on connaît bien à Toulouse.
Oui, il est installé dans la région.
Bien sûr, il est ici. Et qui compose des œuvres toujours très originales. Mais Soleil, l'œuvre que la maîtrise a chantée ce soir-là, est une œuvre d'une vigueur et d'une complexité rythmique extraordinaire. Je ne sais pas comment. J'aurais bien aimé assister aux préparations de Marc Hopstadt avec ses jeunes enfants. Donc c'était très beau. Il y avait des œuvres à la fois de la Renaissance, donc plusieurs œuvres de Thomas Tallis, puis des œuvres du romantisme avec du Grieg, avec du Reinberg, avec du Charles Wood, qui était pas forcément très connu. Puis des œuvres d'aujourd'hui, autres que celles de Patrick Burgan, puisqu'il y avait une œuvre qui s'appelait Litanie de Patrick Lieb, et une œuvre très originale de Eric Eisenwalds, dans laquelle, au chœur a cappella, se joint eh bien, tout un ensemble de verres de cristal que les choristes eux-mêmes doivent frotter pour émettre ce petit son très, 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 comment dire, onirique qu'émettra plus tard, puisque l'utilisation des verres de cristal se faisait avant que l'on invente l'harmonica de verre, telle que Mozart l'a utilisée pour certaines de ses œuvres. Et donc, on voyait ces jeunes enfants qui, à la fois, frottaient un verre et qui chantaient cette œuvre d'Eisenwalds qui s'appelle Stars, donc étoiles. Bref, une soirée vraiment tout à fait réjouissante avec Marc Hopstadt à la fois au piano, qui a d'ailleurs accompagné une mélodie de Claude Debussy qui s'appelle Nuit d'étoiles. On est toujours dans ce même domaine avec une toute jeune soliste qui s'appelle Juliette May et dont je dois dire qu'elle a tout à fait impressionné dans cette mélodie de Debussy. Donc vraiment une belle soirée.
À suivre la maîtrise de Toulouse qui se produit tous les ans hein, dans notre région et puis dans notre ville bien entendu. Nous allons rester à Saint-Pierre-des-Cuisines pour retrouver la saison des grands interprètes puisque c'est là que se produisait lundi le duo formé par le pianiste David Cadouche et le violoncelliste Edgar Moreau, deux très jeunes musiciens mais qu'on ne présente plus guère tant leur réputation est maintenant bien établie sur la scène française et même internationale. Ils ont joué un programme inspiré du CD qu'ils ont fait récemment paraître sous le label Erato. Il est consacré à des sonates romantiques françaises, très joli programme, vraiment original avec, je crois, de nombreuses découvertes pour la plupart des personnes présentes dans le public. Vous qui étiez avec moi, Serge, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du duo Cadouche-Moreau et des œuvres qu'ils ont interprétées ?
Ce sont deux musiciens qui se complètent parfaitement parce que Edgar Moreau, il fait chanter son violoncelle comme un baryton, par exemple. Hein. C'est vraiment une voix qui chante. Hein. C'était très, très beau. David Kadouch, lui, par contre, a un toucher beaucoup plus percussif.
Alors, c'est très énergique, son jeu. Hein.
Très énergique.
Parfois, un peu trop, même. Hein, bon.
Dans le César Franck, un peu trop. Dans le Francis Poulenc qui suivait, ça allait parfaitement.
C'est plus adapté.
Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, ils ont joué ces trois œuvres. Donc, la fameuse sonate pour violon et piano, mais transcrite pour violoncelle et piano.
De César Franck.
De César Franck, évidemment. La transcription, alors j'ai oublié le nom du transcripteur.
Celui qui a arrangé pour violoncelle.
Oui, 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 c'est un violoncelliste. C'est un violoncelliste qui a eu l'approbation de César Franck. Donc c'était vraiment une interprétation à la fois engagée et très dynamique hein, de ces deux artistes, de ces deux jeunes, puisque le plus jeune d'entre eux, c'est Edgar Moreau, il a 23 ans.
Oui.
Donc
oui.
C'est fantastique ça. Enfin, Edgar Moreau, on l'a vu pour la première fois à Toulouse sous la direction d'ailleurs de Valérie Gergiev.
Oui, il avait 17 ans je crois à l'époque.
Oui, 17 ans exactement. Donc il a déjà impressionné dès son premier concert. Après la sonate de Franck, une sonate très peu jouée de Francis Poulenc, sonate originale pour violoncelle et piano, alors avec vraiment du Poulenc pur jus, c'est-à-dire à la fois de l'ironie, de la bonhomie, des pirouettes, hein, une musique par moments pimpante et d'autres moments très nostalgiques, avec un lyrisme étonnant, avec dans le mouvement qui s'appelle Cavatine, certains détails impressionnants, notamment des glissandi du violoncelle, qui étaient comme, un peu comme des larmes.
Oui, hein, je pense que c'est le mouvement le plus réussi de cette sonate.
Ah, c'est
la Cavatine.
Très beau mouvement, donc vraiment une révélation, puisqu'elle n'est pratiquement jamais jouée. Je crois qu'il y a un enregistrement.
Je pense même que c'est un inédit, l'enregistrement de Moreau et Kadouch. Hein.
Il en existait un auparavant.
Je croyais que c'était la première, oui.
Non, je crois qu'il existe un autre enregistrement beaucoup plus ancien, de cette sonate qui était dédiée à Pierre Fournier, le violoncelliste.
Créé par Poulenc et Fournier en 49,
créé
pour être précis.
Par tous voilà. Les deux, oui, voilà.
Et puis, Rita Stroll.
Ah oui.
Alors là, c'est vraiment la découverte.
Ah oui, la découverte absolue, puisque déjà que la plupart des compositrices de l'histoire de la musique sont un peu négligées. Pensons à Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix. Pensons à Clara Schumann, que l'on donne assez peu.
Nadia Boulanger.
Lili Boulanger, surtout la sœur de Nadia Boulanger, qui est une grande compositrice, mais qui est morte.
Beaucoup trop tôt, en fait. Elle est 100 ans de sa mort cette année, justement.
Oui. Mais Rita Stroll, elle, non, a bien vécu longtemps. Et elle a pas mal composé. Hein, elle a un catalogue assez plein. Et là, les deux musiciens ont choisi de jouer, alors rien que le titre est extraordinaire, c'est la grande sonate dramatique Titus et Bérénice. Alors on pourrait se poser les questions, mais qu'a à voir Titus et Bérénice avec une sonate pour violoncelle et piano? Eh bien tout simplement, Rita Stroll s'est inspirée de la tragédie de Racine, Bérénice, et elle a, sans complexe aucun, écrit une musique à programme. Il y a un programme détaillé pour chaque mouvement. Elle a même cité Racine. Et pour chaque mouvement, donc, ça se rapporte à un aspect de la tragédie Bérénice. Alors, c'est très étonnant. C'est une musique qui s'écoute très, très facilement, avec de l'héroïsme, de la passion, puis un peu de divertissement, notamment dans le deuxième mouvement, qui se passe soi-disant dans les appartements de Bérénice. On apprend des choses. Et puis, à la fois l'angoisse et le désespoir, la souffrance, lors de la séparation des deux amants, Titus et Bérénice, on connaît l'histoire tragique. Et donc, vraiment, une découverte intéressante. C'était très bien d'avoir cette bonne idée-là pour le public toulousain.
J'ai trouvé que les deux derniers mouvements, notamment, surtout le troisième, étaient très très beaux.
Ah oui.
Et puis, il y a eu un bis.
Et il y a eu un bis.
Alors, dites-nous ce qu'ils nous ont joué pour le bis.
Ah ben,
parce que là encore, c'est une découverte.
Ils nous ont joué une pièce d'un compositeur dont j'avoue que j'ignorais le nom auparavant, qui s'appelle Fernand de la Tombelle. Et c'est donc une pièce pour violoncelle et piano, évidemment, qu'ils ont enregistrée sur le disque. Et donc, on a eu ce soir-là pratiquement l'intégrale de leur enregistrement.
Oui.
Donc, vraiment une pièce très nostalgique, très lente, très douce, qui finissait la soirée de manière parfaite.
Alors cette pièce, le titre, c'est « Andante espressivo » pour violoncelle et piano de Fernand de la Tombelle. Alors j'ai regardé qui c'était, ce Fernand de la Tombelle. Mais figurez-vous qu'il a participé à la création de la Schola Cantorum avec Vincent d'Indy, entre autres. Il est né en 1854, mort en 1928. Il a une petite célébrité à l'époque. Et bien, je vous propose qu'on écoute un extrait de cette « Andante espressivo » de Fernand Latombelle, interprété évidemment par David Kadouch et Edgar Moreau. Extrait de l'Andante Espressivo pour violoncelle et piano de Fernand de la Tombelle, joué par David Cadouche et Edgar Moreau, un des morceaux du CD qu'ils ont fait paraître chez Erato, et avec lequel nous terminons cette première partie d'émission. On se retrouve dans une minute avec Gilbert Clamins pour parler du concert Cantares qu'il donne avec Magali Léger à l'espace Palumbo de Saint-Jean le 30 mars. Restez bien notre écoute, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et le guitariste Gilbert Clamins, l'invité d'honneur de ce numéro.
Mélomanie. L'agenda.
Et c'est bien sûr avec Gilbert Clamins que nous commençons cette seconde partie. Pour ceux qui ne sauraient pas, je rappelle que vous êtes originaire de notre région, de Moissac pour être précis, que vous avez fait vos études musicales au Conservatoire de Toulouse, vous y avez obtenu un premier prix de guitare, après vous vous êtes perfectionné auprès des plus grands noms de la guitare classique, parmi vos maîtres, on va citer John Williams, Alexandre Lagoya, Antonio Lauro, il y en a eu quelques autres, vous enseignez votre instrument depuis des années au Conservatoire de musique et de danse du Tarn à Albi, vous vous êtes produit et vous continuez à vous produire lors de nombreux concerts. Vous avez fait paraître plusieurs CD. Vous êtes également compositeur. Bon, voilà pour la carte de visite, elle est bien remplie. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Vous donnez donc vendredi 30 mars à 20h30 un concert à l'espace Palumbo de Saint-Jean avec Magali Léger. C'est le prochain de la saison qui organise l'association Gabriel Forêt, dirigée par Sandrine Tilly et Philippe Tribault. Ce concert est intitulé Cantares. Alors Magali Léger est très connu sur la scène nationale baroque. On l'entend souvent dans la région toulousaine depuis quelques temps. On va parler du programme de ce concert, de votre rencontre avec elle, parce que c'est ça d'abord que je voudrais qu'on précise avec vous. Comment est née cette collaboration ?
Elle est née d'une rencontre, mais d'une vraie rencontre. Je me souviens de la première répétition que nous avions faite d'une pièce qui s'appelle Oblivion, d'Astor Piazzolla. Et c'était pour le festival Ton Voisin qu'organise Denis Pascal chaque année dans l'Albigeois. Et lorsque j'ai fait les premières notes d'Oblivion et qu'elle a commencé à chanter, on s'est presque regardé. Quelque chose était né déjà. Dès les premières notes, il y a eu un mariage de voix et avec la guitare qui s'est fait naturellement. Et donc déjà, il y avait des prémices de duo qui allaient naître. Donc nous avons donné suite à ces répétitions les premiers concerts dans le cadre de Ton Voisin. Et puis je lui ai dit, je crois que je vais t'écrire 2-3 pièces en qualité de compositeur. Je lui ai envoyé 4 chansons d'automne, puisqu'elles sont nées en automne, l'automne suivant. Et nous les avons créées, nous les avons chantées dernièrement lors de notre dernier concert à la scène nationale d'Albi, décembre dernier.
Le programme de ce concert, je parle de celui que vous avez chanté à Saint-Jean, à l'espace Palumbo, apparemment ce ne sera pas tout à fait le même que celui que vous avez chanté à Albi il y a quelques mois.
Oui, effectivement, là, à Albi nous avons fait une partie espagnole, musique espagnole et une partie d'Amérique latine, musique d'Amérique latine. Et cette fois-ci, Sandrine Tilly, comme Philippe Tribault, les grands musiciens qui nous invitent, qui sont aussi tous deux solistes à l'Orchestre du Capitole, nous ont demandé de jouer un programme centré sur les grands maîtres espagnols. C'est donc un hommage aux grand maître espagnol du début du XXe siècle, et nous allons commencer par Albéniz, Granados, Manuel de Falla, etc. Mais je parlerai plus longuement tout à l'heure.
Bien sûr. Alors, le programme, d'ailleurs, vous l'avez bâti comment avec Magali Léger ? C'est vous qui proposez ? Vous avez vraiment travaillé ensemble.
On a travaillé un peu ensemble, mais elle sait que je suis un peu spécialiste de ces musiques-là, que je les joue depuis longtemps et que j'avais beaucoup de propositions à lui faire. Mais cela dit, par exemple, pour la série des mélodies de Granados, elle les avait déjà données par ailleurs. Je les connaissais un peu, mais pas aussi bien qu'elle. Et donc le programme s'est bâti autour de ces mélodies de Granados, mais surtout aussi grâce au travail que j'avais fait au préalable en qualité d'arrangeur de compositeur sur les canciones de Federico Garcia Lorca et de Manuel de Falla.
En discutant avec elle, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment une vraie passionnée de la musique espagnole. Elle connaissait déjà très bien.
Oui, elle avait déjà, une prédisposition pour cela, parce qu'elle a une voix, c'est vrai, lyrique et de soprano. Mais il faut dire que les chansons, par exemple, populaires de Manuel de Falla ont été écrites pour une soprano, l'Argentinita, à l'époque. Et on les entend aujourd'hui enregistrer aussi les fameuses chansons de Lorca, comme celle de Falla, par des sopranos, qui ont aussi un lien avec le flamenco. Magali Léger n'a pas ce lien-là. Mais je trouve qu'en peu de mois, elle a fait un grand bond en avant et elle se retrouve quasiment pas cataloguée chanteuse de musique espagnole, mais elle en est proche. Donc avec ses qualités vocales, on peut faire des choses extraordinaires.
Et oui, parce que je me demandais justement, une chanteuse qui a été construite, entre guillemets, pour le baroque et qui a fait toute sa carrière sur la scène baroque, comment on passe comme ça ? Est-ce que c'est si facile de passer d'une voix de baroque à une voix pour chanter de la musique espagnole ?
Oui, là, je pense que Magali serait à même de répondre à cela. Je pense qu'elle a une grande sensibilité pour ces musiques-là, au préalable, et qu'elle sent l'âme espagnole rapidement. Alors, au départ, il y a une recherche dans la mélodie, dans les accentuations, etc., tout ce qui peut caractériser la musique espagnole. Mais très vite, elle bâtit un chant selon les idées que font passer les compositeurs et aussi ceux qui écrivent le texte de ces chansons-là. Elle se les approprie et petit à petit, elle les personnalise.
Qu'est-ce qu'il faut comme particularité dans une voix pour chanter la musique espagnole ?
C'est comme toutes les musiques, je pense, on parlait de musique baroque et d'autres musiques avec Serge tout à l'heure. Il faut les sentir, il faut qu'elles habitent la personne. Comme un acteur doit vivre un personnage toute la journée, toutes les nuits, etc., pour mieux le jouer, pour mieux l'interpréter par la suite, je crois que chanter la musique espagnole, c'est ça. Et aussi, vivre des moments intenses. Par exemple, moi, personnellement, j'ai fait des séjours en Espagne, bien sûr, mais aussi j'ai travaillé avec des guitaristes comme Vicente Pradal, Serge Lopez, etc., Sandoval. Et donc, j'ai entendu des accents qui m'ont touché très tôt et je me les suis fait miens.
Le programme donc que vous allez jouer à l'Espace Palumbo de Saint-Jean, Manuel de Falla évidemment, Enrique Granados, Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Lorca.
Lorca.
Parce qu'on l'oublie, Lorca, tout le monde pense au poète, mais c'était aussi un musicien et un compositeur.
Oui, c'était un très grand poète, bien sûr universellement connu, mais il était musicien. Il était musicien au point qu'il a réussi à collecter des mélodies populaires de diverses régions d'Espagne et qu'il les a harmonisées, mais je dirais succinctement harmonisées. Personnellement, j'en ai fait une relecture, je les ai éditées d'ailleurs, et je les ai harmonisées un peu plus avec un peu plus de richesse, etc. Tout mon savoir-faire actuel. Ce qu'il voulait faire, lui, c'est que ces mélodies ne soient pas oubliées, et donc il collectait les mélodies telles qu'elles étaient avec les accords, disons, primaires. Et voilà, ce sont celles-là qui sont éditées aujourd'hui en Espagne, mais qui ont été attribuées à Federico García Lorca un peu hâtivement, puisqu'il n'a fait que les collecter et les réécrire. Comme on disait tout à l'heure, Mozart a réécrit de mémoire les mélodies du Miserere, je crois. Et là, c'est un peu le cas. Et il allait sur le terrain, il écoutait des chanteurs flamenco, des chanteuses, et il retranscrivait ensuite sur des pages de musique ce qu'il avait entendu, mais elles ne sont pas de lui.
Parmi les œuvres de ces grands compositeurs, vous avez dû faire des choix. Comment vous avez bâti votre programme ? Il y a un fil conducteur ?
Dans le programme, il y a trois grades de séries de chansons. La première, c'est celle de Federico García Lorca. Ensuite, il y a Granados, Enrique Granados. Et Manuel de Falla. Federico García Lorca était un ami de Manuel de Falla. Donc, à notre avis, est dissociable dans le fait que nous allons présenter un programme voix-guitare. Et ensuite, Granados, et je jouerai aussi dans ce programme quelques pièces d'Albéniz, étaient contemporains d'Albéniz. Ils avaient tous, d'ailleurs, défendu cet esprit nationaliste à l'époque, c'est-à-dire les musiques de leur pays. Quand ils ont rencontré Felipe Pedrel, le grand musicologue, ils ont été de suite séduits par ses propos, c'est-à-dire écrivez de la musique, c'est bien. Écrire de la musique, c'est bien, vous l'écrivez formidablement, mais il faut défendre la musique de son pays parce qu'il avait peur, comme Manuel de Falla, par exemple, que le cante rondo, le chant profond, disparaisse à jamais. Parce qu'à l'époque, il était devenu tellement populaire qu'il était devenu une musique aussi un peu, entre guillemets, de paella. Et c'était dommage pour lui, il voulait la sauver. Quoi. Il a lancé un cri, une alarme d'ailleurs, qui a retenti dans le monde entier, en disant « Je vous en prie, faites tout pour sauver ce joyau populaire qui est né dans notre pays et qui doit ensuite traverser les frontières. » Et aujourd'hui, on entend le flamenco dans le monde entier. C'est ça qui est très très beau et qui vient de là, en fait, de l'effort de Manuel de Falla, de Lorca. Tous les deux, on sait qu'ils ont fondé en 1922, par exemple, un concours de cante rondo, en 1922, pour ces raisons-là. Parce qu'ils avaient peur que cette musique-là disparaisse.
Voilà.
Ah, jamais.
Heureusement, ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas.
Heureusement, ça n'a pas été le cas, ouais. Parce que c'est une musique magnifique. Et vous évoquiez les joueurs de guitare flamenco. Nous en avons beaucoup dans la région toulousaine.
Oui.
Alors, je pense que c'est lié à l'immigration des républicains espagnols.
Complètement.
Mais on constate que, depuis quelques années, on a de jeunes cracks aussi de la guitare à Toulouse. Je pense à Sébastien Linares, à Thibaut Garcia, encore plus récemment.
Absolument.
Il y a vous aussi. Est-ce que ça explique ce creuset dans notre région ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, ils ont des langues qui rappellent l'Espagne, Garcia ou Linares.
Vous avez cité Bernardo Sandoval, Vicente Pradal.
J'ai cité, les amis guitaristes espagnols. Ici, il y a un festival qui s'appelle Flamenco de Toulouse, je crois. Et Albi, par exemple, j'ai fondé un concours de guitare flamenca et espagnole, guitare espagnole, enfin, de musique espagnole. Donc, il y a les deux courants. Et ce n'est pas par hasard si à Toulouse, comme à Albi, ou en tout cas dans la grande région sud-ouest, on trouve des guitaristes qui ont cette sensibilité par rapport à ces musique, qui ont envie de la défendre, etc., comme on la défend chez eux. Je pense que le Sud-Ouest est un berceau, parce qu'on sait qu'historiquement, il y a eu l'accueil de gens qui sont venus de là-bas lors du franquisme, même après. Hein. Par exemple, je pense à Kiko Ruiz, lui, il est arrivé bien plus tard, mais il est fils d'immigrants espagnols.
Oui. Moi, j'ai remarqué ça et ça continue, c'est ça qui...
Ça continue. Et alors, on peut aussi voir l'effet inverse, c'est que tous ces jeunes que je connais, que je cite là, ils reviennent en Espagne aussi chercher tout ce qui se fait aujourd'hui.
Oui, mais maintenant, ça va dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens,
il y a la proximité quand même.
Bien, oui.
Qui joue forcément. Ouais. Je propose qu'on écoute maintenant un extrait de ce Cantares, Gilbert Clamins, Magali Léger. On va écouter, c'est une suite d'extraits, et après vous me direz ce qu'on a entendu pendant ces quelques minutes. Extrait de Cantares, le concert que donnent Magali Léger et Gilbert Clamins, vendredi 30 mars à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean, dans le cadre de la saison qui organise l'association Gabriel Fauré. Alors qu'est-ce qu'on a entendu là? Parce que là, il y a des extraits qu'on n'entendra pas lors du concert.
Oui, il y a quelques extraits qu'on n'entendra pas, mais la première œuvre est une œuvre de Manuel de Falla, c'est El Paño Morrudo. C'est la première chanson populaire qu'il a écrite, et ce qui prouve bien son amour pour ces musiques-là, parce qu'il est allé puiser dans le fameux cancionero de Philippe Pedrel, c'est-à-dire chercher les mélodies, ensuite les mettre en forme et les faire siennes. Et elles sont vraiment harmonisées à merveille, tout à fait dans le style. Donc nous allons jouer les 7 canciones de Falla, elles font partie du programme, là nous avons entendu la première. Et la dernière œuvre que nous écoutions, c'était Oblivion, d'Astor Piazzolla, que vous n'aurez pas le bonheur d'écouter le 30 mars. Et c'est grâce à cette œuvre-là que notre duo a pu se former.
Entre Magali Léger et vous-même. Et ouais. C'est vrai que c'était magnifique, Serge, vous le découvriez là.
Absolument. Mais l'association guitare et voix de Magali Léger, ça marche parfaitement. Hein, là, vraiment.
Elle apporte des nuances, je trouve, dans son chant qui va très bien, évidemment, avec cette musique. Il y a vraiment une émotion et une sensualité. Lorsqu'on connaît Magali Léger, on peut lui faire confiance pour ça. Alors, la semaine prochaine, il y a d'autres concerts, dès dimanche 25 à 17h à l'église Saint-Pierre de Blagnac, le violoncelliste Henri de Marquette et le chœur Sequenza 9.3 vont interpréter leur programme Vocello. C'est un concert qui fait partie de la programmation des rencontres de musique baroque et ancienne organisée par Audisud. Serge Chauzy, vous qui aimez les musiques anciennes et qui connaissez certainement ce grand violoncelliste qu'est Henri de Marquette, que pouvez-vous nous dire de ce programme et de ce projet Vocello qu'il a vu s'associer à l'ensemble vocal Sequenza 9.3?
Ben, d'abord, c'est que c'est particulièrement original. Vocello, ça vient de voce, voix, et cello, violoncelle. Donc, associer la voix et le violoncelle, c'est une excellente idée, une idée très originale. Alors, bon, évidemment, Henri de Marquette est un excellent musicien, un grand violoncelliste. Et lorsqu'on regarde le programme, on est vraiment stupéfait de l'alternance, là aussi, entre musique ancienne et musique contemporaine.
Oui, parce que c'est le festival des musiques baroques anciennes, mais là, il n'y a pas que de l'ancien.
Ah non, pas du tout. Ça commence avec le fameux air de Didon et Aîné, When I Am Laid in Earth de Henry Purcell, et puis ça se poursuit par une œuvre de John Taverner, qui est un compositeur britannique qui est mort il n'y a pas très longtemps. Hein. Et il y a aussi une œuvre de Patrick Burgan, décidément,
toujours
qui
lui.
Est jouée chez nous, c'est très bien, qui s'appelle L'Archipel des Saisons. Puis il y a du Dolan, de la musique ancienne, puis du Thierry Esquèche de nouveau.
On revient au 21e siècle.
Thierry Esquèche, grand organiste et grand compositeur. Et puis il y a même une œuvre de Baptiste Trottignon, jazzman, bien connu et célèbre, donc à juste titre. Et puis il y a du Allegri, le fameux Miserere d'Allegri dont on a parlé tout à l'heure, est aussi chanté par l'ensemble, alors avec probablement le violoncelle associé. Et puis alors, l'œuvre d'une compositrice, enfin, une compositrice lituanienne qui s'appelle Justė Janulytė. Alors, je suis désolé, mon accent lituanien n'est peut-être pas excellent. Une œuvre qui est tout à fait récente, puisque cette compositrice est née en 1982.
Oui, c'est une jeune compositrice, vraiment,
toute
pour le coup.
Toute jeune compositrice, donc c'est formidable. Là, on a un choix, un éventail d'époques et de musique qui est tout à fait impressionnant.
Un mot sur le cœur, la séquence 9.3, que personnellement je ne connais pas non plus.
Moi non plus. Alors,
je sais que c'est dirigé par une femme, justement, Catherine Simon-Pietri.
Ah oui, elle, on connaît quand même. C'est un nom qu'on connaît. Et donc, écoute, ça sera un très bon moyen pour découvrir ce chœur.
Hein. Oui, vraiment un programme très original. On va en écouter un extrait de ce programme. Justement, vous parliez du compositeur britannique contemporain John Taverner. Je dis contemporain parce qu'il est mort en 2013, il y a à peine 5 ans. On peut le rattacher au mouvement minimaliste, comme son compatriote Michael Nyman, avec toutefois une forte composante mystique chez lui. Parce que Taverner, j'ai regardé, il s'est converti à un moment de sa vie au christianisme orthodoxe russe, ce qui est original pour un Britannique. Et on peut dire que ça se sent assez dans sa musique. Écoutez cette pièce intitulée Sviati, interprétée par Henri de Marquette et le chœur Sequenza 9.3.
Thank you.
Sviati de John Tavener, interprété par Henri de Marquette et le chœur Sequenza 9.3. C'est une des pièces du programme Vocello. Il le donne ce dimanche 25 mars à 17h à l'église Saint-Pierre de Blagnac. C'est dans le cadre de la programmation des rencontres de musique baroque et ancienne d'Audi-Sud. Et Serge Chosy, vous vouliez préciser quelque chose concernant l'œuvre de Baptiste Trottignon qu'ils vont jouer lors de ce concert.
Oui, parce qu'il s'agira d'une création mondiale. Tout de même, c'est un grand honneur là. Et donc c'est une œuvre qui s'appelle « Au bout du petit matin » et qui a été écrite donc par Trottignon d'après un poème d'Aimé Césaire. Donc intéressant, hein, voilà une œuvre qu'on devra découvrir ce jour-là.
Une raison de plus d'aller voir ce concert. Autre concert que je souhaite annoncer et présenter, le Vent des Royaumes à la salle Lauragais de Saint-Horace-de-Gainville, jeudi 29 mars à 20h30. C'est un programme un peu spécial proposé par les Passions de Montauban de Jean-Marc Andrieux qui ont associé 4 de leurs musiciens avec 3 musiciens asiatiques, une chinoise qui joue de la sitar, une taïwanaise qui joue des percussions et un mongol qui pratique le chant diphonique et joue de la vielle à 2 cordes. La rencontre entre la musique baroque européenne et la musique traditionnelle asiatique donc, sachant que ces 7 musiciens jouent toujours en même temps, quelle que soit l'origine des œuvres qu'ils interprètent. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Une collaboration née à l'initiative du festival Medinasia il y a quelques années, mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce concert a un but caritatif. Il est organisé en partenariat avec le Rotary Club Toulouse-Lauragais au profit de l'association Espoir dans le cadre de leur opération Femmes Invisibles. Qu'est-ce que c'est que cette opération Femmes Invisibles, Serge Chosy ?
Eh bien, c'est une association qui aide les femmes SDF et donc qui les reçoit dans une structure d'accueil de jour qui s'appelle le Petit Salon. C'est un accueil réservé aux femmes seules, avec ou sans enfants, et un accueil qui est ouvert toute l'année. Le lundi, mercredi, vendredi, samedi, à des horaires déterminés, de novembre à mars. Et c'est un accueil libre et gratuit pour ces femmes laissées pour compte, en quelque sorte, donc, qui vivent dans la rue. Donc, voilà, un beau concert avec de la belle musique et un but caritatif qui est très fort, je trouve, et qui mérite qu'on y insiste. Hein.
Et dans une nouvelle salle apparemment, parce que moi je ne connais pas cette salle Lauragais. Je crois que c'est un nouveau lieu, d'après ce que j'ai compris.
Voilà.
On connaît Altigone à Saint-Horace-de-Gainville, Lauragais.
Voilà, on va découvrir.
Autre raison d'y aller.
Espace Lauragais de Saint-Horace-de-Gainville.
Alors, quant au programme de ce concert, au-delà de cette belle cause qui mérite vraiment d'être soutenue, eh bien, c'est une espèce d'ovni musical. Parce que moi j'y assistais l'an passé à l'abbaye de Belperche dans le Tarn-et-Garonne. Et je peux vous dire qu'il y a des sonorités, d'une part, et un aspect visuel et même gestuel auquel on est guère habitué, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose d'écouter un extrait de ce programme Vent des Royaumes. Vous allez entendre à un moment donné justement le chant diphonique de Mandarai, ce musicien mongol. We'll be right back. quand je vous disais que c'est détonnant. Quelques extraits du Vent des Royaumes, le concert qu'on donne les passions Montauban, avec trois musiciens asiatiques jeudi 29 mars à 20h30 à la salle Lauragais de Saint-Aurès-de-Gainville. Une soirée solidaire au profit de l'opération Femmes Invisibles, organisée par le Rotary Club Toulouse-Lauragais et l'association Espoir. Un dernier concert à noter aussi dans votre agenda si vous habitez du côté de Lourdes. Jeudi 29 mars à 20h30 également, l'ensemble baroque de Toulouse va interpréter la messe en si de Jean-Sébastien Bach. C'est à la salle Padre Pio de la Cité Saint-Pierre. Serge, je pense que vous vous en rappelez aussi, il l'avait donné et même créé pour la première fois lors de l'ouverture du festival Passe ton Bac d'abord à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse il y a 2 ou 3 ans. Ça avait été une vraie réussite. Est-ce que vous en gardez le même souvenir que moi?
Ah oui, c'était vraiment d'une grande beauté, oui. Et puis dans cette cathédrale, enfin, la grande œuvre de Bach donnée, la grande œuvre catholique du compositeur protestant qui était Bach.
Oui, parce que c'est une messe catholique.
Ah oui, une messe catholique, oui. Donc, c'était très très beau. J'en ai un excellent souvenir, effectivement, avec un très beau chœur.
Chœur qui était composé en assez grande partie de chanteurs amateurs.
Exactement.
Pourtant, moi, je me rappelle très bien ce que ça donnait. Souvent, on entend la blancheur des voix. Oui. Lorsque ce sont... Et là, pas du tout.
Non. Ils avaient vraiment travaillé. Bon, il faut dire que ce festival, Passe ton Bac d'abord, est toujours une réussite tous les ans.
Et c'était la cathédrale Saint-Étienne.
Ah oui.
Apparemment, ils ont abandonné maintenant les concerts d'ouverture à Saint-Étienne, ce qui était une tradition. Et je ne sais pas si cette année ils vont y revenir. Je n'ai pas encore eu le programme. Michel Brun viendra nous en parler. Ce sera vers la fin du mois de mai, puisque cette année, pour ceux qui voudraient déjà le noter, Passe ton Bac d'abord, c'est du 1er au 3 juin. Mais avant, jeudi 29 mars à 20h30, salle Padre Pio de la Cité Saint-Pierre de Lourdes, messe en si de Jean-Sébastien Bach, avec l'ensemble baroque dirigé par Michel Brun. On va en écouter un très court extrait, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Très court extrait de la messe en si de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble baroque. Petit extrait de la messe en si de Jean-Sébastien Bach dans la version de l'ensemble baroque de Toulouse, sous la direction de Michel Brun. L'ensemble baroque va donc donner cette même œuvre en concert jeudi 29 mars à 20h30 à la salle Padre Pio de la Cité Saint-Pierre de Lourdes. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous deux d'y avoir participé et de l'avoir animé en ma compagnie. Je rappelle que Gilbert Clamins et Magali Léger donnent leur concert Cantares à l'espace Palumbo de Saint-Jean, vendredi 30 mars à 20h30, un concert de la saison qui organise l'association Gabriel Fauré, et vous pouvez vous renseigner et réserver vos places sur le site www.gabrielfauré.fr. Je rappelle aussi le concert Vocello du violoncelliste Henri de Marquette et du chœur Sequenza 9.3 à l'église Saint-Pierre de Blagnac ce dimanche 25 mars à 17h, un des rendez-vous des rencontres des musiques baroques et anciennes d'Audisud. Informations et réservations sur le site www.audisud.com. Le Vent des Royaumes, le concert des passions de Montauban et leurs camarades asiatiques a lieu le jeudi 29 mars à 20h30. C'est donc salle Lauragais à Saint-Aurès-de-Gainville, concert caritatif au profit de l'opération Femmes Invisibles qui vient en aide aux femmes en situation de grande précarité. Je vous invite à consulter le site des passions pour en savoir plus et réserver vos places, www.les-passions.fr. Je signale pour la messe en si de Bach donnée par l'ensemble baroque de Toulouse, jeudi 29 mars à 20h30 à la salle Padre Pio de la Cité Saint-Pierre de Lourdes, que vous pouvez vous renseigner sur le site de l'ensemble baroque, www.baroquetoulouse.com. Et enfin, je signale aussi que le prochain concert de la saison des grands interprètes est donné vendredi 30 mars à 20h à la Halle au Grain par l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction du Mu Munchung, au programme la 9e et dernière symphonie de Gustave Mahler. Renseignements et réservations sur le site www.grandsinterprètes.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.